mesdames, messieurs, il ne me reste plus que 4 leçons pour cette année. Et bien entendu, je m'aperçois que je suis en retard, qu'il y a beaucoup de fils que je voudrais encore tirer dans les essais de Montaigne et dans leur écriture de la vie. Mais j'espère que nous sommes en chemin vers l'essentiel du sujet. En attendant, je vous rappelle qu'il y a 2 conférences d'une invitée à la fois de John Scheid, mon collègue archéologue, et de moi-même, une historienne de l'art de Fordham University à New York, sur l'invention des primitifs. Donc c'est un moment clé de l'histoire de l'art des 2 côtés de l'Atlantique. La semaine passée, je vous ai donc parlé de l'écriture de la mort comme aspect de l'écriture de la vie et de cette thèse fréquente dans les essais de Montaigne de la mort continue, progressive, omniprésente, à tous les instants de la vie et par là même apprivoisée, atténuée, moins redoutable. Notamment dans cet apologue de la dent du chapitre de l'expérience. Mais j'ai un peu contesté la force de ces arguments en raison de leur feu d'artifice rhétorique et sophistique. Par exemple, ces prosopopées ironiques de la nature ou de l'esprit qui fait la leçon de sagesse à l'imagination, qui le flatte, qui le pipe. Quelle est la portée de ce genre d'argument chez un partisan de la sincérité, comme Montaigne? Et puis, on a abouti à une question résiduelle. Quelle instance sera affectée par la dernière mort? Et j'ai pris l'exemple du récit de l'agonie de la Boétie. Et on voit là que, en effet, les thèmes que nous poursuivons à travers ces leçons, la vie, l'écriture de la vie, l'identité, le moi et l'écriture de la mort comme forme d'écriture de la vie, tous ces thèmes sont bien inséparables et noués. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé la dernière fois, je voudrais m'arrêter au chapitre de la physionomie 3.12, parce qu'on y trouve à la fois une réflexion sur la mort, donc sur le moi, et également des moments de vie, ce que nous avions analysé dans les premiers cours, ces moments de vie, ces expériences personnelles, ces anecdotes que nous relate Montaigne. C'est donc un chapitre qui est relativement privilégié puisqu'il noue tous les fils qui nous ont guidés jusqu'ici. Il est, d'une certaine façon, un pendant du chapitre 1.20 que nous avons lu la semaine dernière, que philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est l'antithèse du chapitre 1.20, comme on va le voir, où il s'agit non plus de la leçon des philosophes, mais de la mort réelle des paysans et de la leçon qu'il faut en tirer. Et puis, c'est aussi le pendant du chapitre 2.6 de l'exercitation dont nous avons fait grand cas puisqu'il s'agit de l'accident de cheval qui permet à Montaigne d'essayer la mort. Autrement dit, il relie ces 2 chapitres, il appartient à la même, au même modèle, au même paradigme que ces 2 chapitres, à la fois leçon sur la mort, leçon réelle et non plus leçon des livres, et récit d'expériences, d'accidents périlleux qui ont mis Montaigne en danger de mort. Et tout cela, on va le voir, rejoint en effet la question de l'identité. Alors ce chapitre de la physionomie, comme je l'ai annoncé, peut-être l'avez-vous relu depuis la semaine passée, c'est un chapitre dont le déroulement, l'intrigue, si l'on veut, est compliqué. C'est un chapitre qui est boursouflé, libre, comme beaucoup des chapitres du livre 3, et ses articulations sont peu explicites. Autrement dit, il faut vraiment, c'est un chapitre dans lequel il faut retrouver le cheminement de la pensée de Montaigne. Le titre de la physionomie semble indiquer qu'il s'agit d'une réflexion sur les rapports entre l'aspect physique d'une personne et son caractère, le dehors et le dedans. Physionomie, c'est un mot que Montaigne n'utilise dans aucun autre chapitre que celui-là. Et dans ce chapitre, il l'utilise trois fois, de la physionomie, titre du chapitre. Vers la fin du chapitre, il décrit celui-ci comme le traité de la physionomie. Et puis, dans une citation que j'évoquerai tout à l'heure, il évoque ce qu'on appelle des physionomies favorables. Donc, physionomie, c'est à la fois l'apparence physique, le visage, et puis c'est aussi, selon beaucoup de traités de la Renaissance, la physiognomonie. Autrement dit, la science des caractères et du destin à travers l'apparence physique. On pourrait donc s'attendre à un chapitre sur la correspondance, la relation entre les traits du visage, puisqu'il s'agit essentiellement du visage, sa conformation, bref, ce que Montaigne appelle aussi la mine, et l'être intérieur, l'âme, la fortune d'un personnage. Une méditation sur l'apparence et la réalité, le paraître et l'être. Mais le chapitre ne commence pas du tout sur ce sujet et on ne saura que très tardivement pourquoi toutes les digressions, tous les méandres que Montaigne a empruntés sont reliés à cette question de la physionomie. Au départ du chapitre, il est en effet question de Socrate, de sa simplicité, de sa naïveté, de son naturel, tout terme cher à Montaigne, de son vœu d'ignorance, cette ignorance savante, cette ignorance qui se sait. Tout cela fait de lui, aux yeux de Montaigne, le modèle de la sagesse. À l'horizon du chapitre, puisque j'en viens tout de suite au nœud, au motif, qui sera révélé seulement aux trois quarts du chapitre, donc pendant trois quarts du chapitre, on ne comprend pas la relation entre le titre et la matière. Et puis, aux trois quarts du chapitre, Montaigne révèle et justifie pleinement le titre. Socrate, eh bien, c'est un modèle aberrant de sagesse, un modèle paradoxal de sagesse, en raison de la contradiction qui existe chez lui entre sa laideur physique et sa beauté morale. On touche donc bien ici à la question de l'identité, de la nature de l'identité. Socrate n'était pas beau, hein, selon toutes les relations, toutes les représentations qui nous ont été transmises. Comment un homme laid peut-il en même temps être honnête ? Honnête, je vous le rappelle, c'est la traduction de Cicéron pour la beauté morale grecque, hein, tokalon, traduit par honestum, honos, honestum. On se souvient du chapitre 2.1 des Essais, de l'utile et de l'honnête. L'honnête, c'est ce qui est beau moralement. Eh bien, comment un homme laid peut-il être beau moralement ? Montaigne se retrouve face à une énigme, une impasse logique, une aporie, et il est difficile pour lui de le comprendre, car la philosophie de Platon, donc celle de Socrate, hein, voudrait qu'il y ait correspondance, harmonie entre le dedans et le dehors, entre le physique et le moral. C'est un topos, tout cela. Je vous renvoie au prologue de Gargantua, hein, l'habit ne fait pas le moine, etc. C'est une question cruciale pour les platoniciens, les néoplatoniciens de la Renaissance. Cette aporie est donc au cœur du chapitre, mais elle n'est relevée qu'aux trois quarts de son parcours, dans un nœud, une articulation et une page qui est particulièrement compliquée, comme vous le voyez dans l'exemplaire de Bordeaux, de la physionomie, c'est le chapitre avant-dernier hein, du livre 3, page largement remaniée dans l'exemplaire de Bordeaux. Et voici le passage qui nous concerne, qui est au bas de cette page. Vous pouvez lire « Socrate, qui a été un patron admirable, corrigé en exemplaire parfait, en toute grande qualité, j'ai dépit qu'il eût rencontré un corps et un visage, Montaigne a envisagé de corriger, puis il a remis visage, un visage si vilain, addition interlinéaire, comme ils disent, et si disconvenable, si est embarré, biffé, à la beauté de son âme. Et puis une addition marginale que vous voyez là, lui, si amoureux et si affolé de la beauté, puis une nouvelle addition d'une autre angle, nature lui fit injustice. Voici en transcription. Socrate, qui a été un exemplaire parfait en toute grande qualité, j'ai dépit qu'il eût rencontré un corps et un visage si vilain, comme ils disent, et disconvenable à la beauté de son âme, lui si amoureux, si affolé de la beauté, nature lui fit injustice. Il n'est rien plus vraisemblable que la conformité et relation du corps à l'esprit. Voilà la difficulté. Voilà la difficulté à laquelle Montaigne est confronté. Et on peut dire qu'elle est encore accrue du fait que l'ami de Montaigne, ce La Boétie, modèle du sage, eh bien lui aussi n'était pas beau, suivant une addition de l'exemplaire de Bordeaux. Hein, nous appelons laideur aussi, c'est-à-dire non seulement la difformité réputée être celle de Socrate, non seulement la difformité, nous appelons laideur aussi une mésavenance, donc une inconvenance, une apparence peu avenante, au premier regard, qui loge principalement au visage et souvent nous dégoûte par bien légère cause du teint, d'une tache, d'une rude contenance, de quelque cause inexplicable sur des membres bien ordonnés et entiers. La laideur qui revêtait une âme très belle en La Boétie était de ce prédicament, de cette espèce, de cette nature. Montaigne utilise ici une très belle image, séduisante image, que je n'ai pas retranscrite. Non pas tout soulier de cuir bien lissé, mais tout soulier bien formé montre l'intérieure forme du pied. L'idée qui est très fréquente chez Montaigne est toujours partisan des vêtements juste au corps, hein, des vêtements qui ne cachent pas, qui révèlent les articulations du corps. Hein. Le soulier bien formé, Montaigne dit ailleurs, en reprenant l'adage, à chaque pied son soulier, hein, c'est exactement l'opposé de l'adage chat en poche que j'avais utilisé il y a un certain nombre d'années pour un livre sur Montaigne, pour le titre d'un livre sur Montaigne, acheter chat en poche sans voir quelle est la vérité dans le sac. Donc Montaigne souligne souvent que bon, chat en poche, à chaque pied son soulier, il faut que les mots révèle bien les choses, comme les vêtements, le corps. Et ici, il est évidemment gêné par cette contradiction. Ces grands hommes, Socrate, La Boétie, étaient laids. C'est donc le motif longtemps caché, secret de ce chapitre, qui a commencé à parler de la sagesse de Socrate, de son vœu d'ignorance, et qui, à partir de là, s'est perdu, s'est égaré dans de longues digressions, dont la première de ces digressions a suivant Socrate, réfuter la vérité de toute doctrine qui ne nous serait pas innée, qui ne serait pas en nous naturelle, en prenant l'exemple du courage des gens simples devant la mort. Encore une fois, cette analogie entre les simples et les sages rencontrés à plusieurs reprises, et cela a introduit une évocation très étendue des souffrances des paysans, familiers de montagne, ses voisins, ses gens, qui étaient alors exposés aux guerres civiles, puis à une épidémie de peste, si bien que tout le cœur du chapitre est occupé par cette question de la mort des gens humbles, l'observation de leur sérénité devant la mort, et le spectacle de cette souffrance des paysans a libéré Montaigne des doctrines philosophiques qu'on avait observées la semaine dernière. Ainsi, la leçon de la vie se substitue à celle des livres et nul besoin de philosophie pour se préparer à la mort, en contradiction avec ce qu'on avait vu la semaine passée, avec ce vulgaire, cette commune façon de ceux qui ignoraient la mort. Eh bien, Montaigne dit maintenant: recueillez-vous, vous trouverez en vous les arguments de la nature contre la mort, vrais et les plus propres à vous servir à la nécessité. Ce sont ceux qui font mourir un paysan et des peuples entiers aussi constamment qu'un philosophe. Le déroulement de ce chapitre est donc dérangé, dévié, perturbé de manière répétée par des moments de vie, ce que j'ai appelé des moments de vie, des expériences personnelles qui dérangent l'argumentation. J'écrivais ceci, Montaigne écrivait de la mort de Montaigne en la comparant à celle des humbles, donc cette méditation générale, abstraite, environ le temps qu'une forte charge de nos troubles se croupit plusieurs mois, pesa de tout son poids droit sur moi. J'avais d'une part les ennemis à ma porte, d'autre part les picoreurs, c'est-à-dire les soldats en maraude, pires ennemis. Monstrueuse guerre, la guerre civile, les autres agissent au dehors, celle-ci encore contre soi, se ronge et se défait par son propre venin. C'est un passage là aussi qui est tout à fait exceptionnel et même unique dans les essais par la précision du contexte historique que Montaigne nous donne et par la relation d'incidents réels. Il s'agit de la guerre civile dans le Périgord où il se trouve en 1585-1586, des pillages, de la famine et puis de la peste. C'est à rapprocher du chapitre que nous avions analysé il y a un certain nombre de leçons, divers événements de même conseil, 1.24, où Montaigne également relatait un épisode relatif à sa mairie de Bordeaux, où il s'était senti en danger de mort lorsqu'il avait ordonné une revue de la bourgeoisie en armes. Outre cette secousse, donc guerre civile, famine, pillage, soldats en maraude, j'en souffris d'autres. J'en courus les inconvénients que la modération apporte en telle maladie. Je fus pelaudé, battu, malmené, de toutes mains. Au gibelin j'étais guelfe, au guelfe gibelin. Quelqu'un de mes poètes dit bien cela, mais je ne sais où c'est. La situation de ma maison et l'acquaintance des hommes de mon voisinage me présentaient d'un visage ma vie et mes actions d'un autre. Allusion donc aux villes italiennes, hein, avec les gibelins comme partisans de l'empereur, les guelfes partisans de l'autonomie des cités ou du pape. Et Montaigne nous dit, eh bien, j'étais la situation de la maison et l'acquaintance des hommes de mon voisinage le faisaient proche des réformés, d'Henri de Navarre, ma vie et mes actions d'un autre, mais mes choix politiques, Montaigne étant associé à ceux qu'on appelait les politiques, le faisait adhérer à Henri III, au monarque légitime. Et là-dessus survint, catastrophe ultime, cette peste de 1586. Voici un autre rengrègement de mal qui m'arriva à la suite du reste. Et dehors et dedans ma maison, je fus accueilli d'une peste véhémente au prix de tout autre. C'est probablement le moment le plus dramatique de la vie de Montaigne, cette guerre civile et cette peste chez lui, et de cette expérience qui le fait sortir de sa librairie, il y a des leçons fortes à tirer. Voici comment elles sont formulées. Or, l'or, quel exemple de résolution ne vîmes-nous en la simplicité de tout ce peuple ? Ce peuple des paysans, résolu naturellement devant la mort, ce qui mène à reconsidérer la valeur de cette meditatio mortis, cette méditation de la mort que nous évoquions la semaine passée, et à lui opposer la nature qui est évidemment un mot présent partout dans ces pages. Nous avons abandonné nature et lui voulons apprendre sa leçon, elle qui nous menait si heureusement et si sûrement. On assiste ainsi à un renversement en faveur des simples contre les demi-savants. Dans un nouvel exemple de ce que j'avais appelé dans le passé, cette ébauche chez Montaigne de la gradation pascalienne. Les paysans, tous les demi-savants qui philosophent et qui se trompent, et puis au-dessus, Socrate, l'ignorance savante, modèle même de la gradation permettant cette analogie entre Socrate et les paysans. Troisième citation ici. Il est certain qu'à la plupart, la préparation à la mort a donné plus de tourments que n'a fait la souffrance. On a bien un retournement dialectique en faveur de la vie. Nous troublons la vie par le soin de la mort et la mort par le soin de la vie. Antithèse, chiasme. Encore renforcé par une addition de l'exemplaire de Bordeaux, l'une nous ennuie, l'autre nous effraie. Jusqu'à cette formule forte, très connue, de l'exemplaire de Bordeaux, dont je vous montre la manière dont... elle est là, cette formule. Mais il m'est avis que c'est bien le bout, non pourtant le but de la vie. C'est sa fin, son extrémité, non pourtant son objet. Voici comment cette formule, quand on a ces belles formules de Montaigne, si familières, jouant sur le but et le bout, et contredisant ce que nous voyons la semaine passée, on peut voir comment Montaigne est arrivé à cette formule. C'est au bas de cette page de l'exemplaire de Bordeaux, à droite, où vous allez voir qu'il tâtonne pour la chercher. Mais il m'est avis que c'est le bout, la fin, l'extrémité de la vie que la mort. Et que la formule est beaucoup moins heureuse, le bout, la fin, l'extrémité, avec cette gradation. Et puis, tout cela est biffé pour trouver... C'est le bout, non pourtant le but. Et puis, l'extrémité, elle est reportée un peu plus loin, ainsi que c'est qu'on le trouvera dans la formule finale. C'est donc une nouvelle forme de cette gradation et de la dialectique de la sagesse. Elle est jugée par l'utilité par la vérité naïve, naturelle, les leçons de la simplicité ne cèdent guère à celles que nous prêche la doctrine, au contraire. Montaigne fait ainsi l'apologie de ce qu'il appelle la simplicité naturelle, l'école de bêtise, suivant l'exemple de Socrate devant ses juges, qui ne recourt pas au service d'un professionnel du discours, rhéteur ou sophiste, mais s'exprime devant ses juges dans ce que Montaigne appelle un plaidoyer puéril, admirable également de simplicité, en simplicité et en véhémence. Là loge l'extrême degré de perfection et de difficulté, l'art n'y peut joindre. C'est l'opposition constante de la nature et de l'art dans les essais, et bien sûr, la nature est au sommet. Vous voyez qu'il n'est toujours pas question de la physionomie, j'ai rapidement parcouru les trois quarts du chapitre, mais de Socrate, de son vœu d'ignorance, de la conduite des paysans dans des circonstances difficiles, de l'attitude de Socrate devant la mort. Or, ce plaidoyer, eh bien, je l'ai annoncé, il est brutalement contredit par la réflexion sur la laideur de Socrate et l'aporie qui compromet toute l'argumentation. Socrate, qui a été un exemplaire parfait en toute grande qualité, j'ai dépit qu'il eût rencontré un visage, un corps et un visage si vilain. Comment lever cette contradiction ? Socrate disait de la sienne, propose Montaigne, de la sienne, de sa laideur, qu'elle en accusait justement autant en son âme. Puisqu'il était laid de corps et de visage, eh bien, il était laid autant en son âme. S'il ne l'eût corrigé par institution, institution, éducation. La source de Montaigne, c'est ici, comme ils disent, c'est Cicéron qui écrivait que Socrate s'était transformé par voluntate studio disciplina, par la volonté, par l'étude, par la discipline. Bien entendu, on a encore ici affaire à un topos, mais le paradoxe n'en est pas moins tout à fait profond pour Montaigne. Socrate, ce modèle de la philosophie naturelle, ce modèle de toute cette philosophie de la nature dans les essais, serait donc lui-même une exception, un contre-exemple à sa propre philosophie, car il aurait dû corriger sa propre nature par l'éducation. Et Montaigne, comme le montre l'addition de l'exemplaire de Bordeaux, Montaigne n'y croit pas. Mais en le disant, en disant qu'il a corrigé sa nature, je tiens qu'il se moquait, suivant son usage. Allusion à l'ironie de Socrate. Et jamais âme si excellente ne se fit elle-même. Montaigne ruine aussitôt l'argument de la correction par l'éducation. Donc il propose une solution. Cette solution, il continuera à l'explorer un petit peu en 1588, mais vous voyez que dès le moment qu'il la propose, dans l'exemplaire de Bordeaux, il la contredit. Il la ruine. Comment se sortir de cette aporie ? Comment réconcilier la laideur de Socrate et sa beauté morale si l'art ne peut pas corriger la nature ? Eh bien, à la manière habituelle de Montaigne, en soutenant une position plus modérée, ni guelfe ni gibelin, plus dialectique, en distinguant la physionomie de la beauté. Certes, Montaigne préfère les personnes avenantes et tend à leur faire confiance. On fait confiance aux gens selon leur beauté. Elle, voilà l'addition en haut à gauche, où Montaigne contredit son raisonnement. Elle, la beauté, tient le premier rang au commerce des hommes. Non seulement aux hommes qui me servent, mais aux bêtes. Je la considère à deux doigts près de la bonté. Un même mot embrasse en grec le bel et le bon, et le Saint-Esprit appelle souvent bon ce qu'il veut dire beau. À la fois l'autorité grecque et l'autorité biblique, l'autorité chrétienne, plaident pour cette conformité du bon et du beau. Mais tout tient dans ces deux doigts près que Montaigne introduit bon et beau, entre les deux, il y a deux lettres, trois lettres, un phonème, un son, et tout est là. Ainsi, la beauté et la bonté ne sont pas telles que Montaigne ne puisse introduire un coin entre elles, ses deux doigts. La beauté et la laideur ne sont pas des indices sûrs des complexions internes, dit-il, et de nos fortunes à venir. C'est-à-dire, nos fortunes à venir, c'est-à-dire, on ne peut pas interpréter la fortune d'un homme à partir de son visage. C'est toute la physiognomonie que Montaigne met en cause ainsi. Comme ailleurs, il se moque des autres formes de la divination dans le chapitre des pronostications. Car, dit-il, en une face qui ne sera pas trop bien composée, il peut loger quelque air de probité et de fiancé. Donc, le visage qui n'est pas harmonieux, pas trop bien composé, eh bien, on peut quand même y repérer cet air de probité. Vous voyez, c'est ça, ces deux doigts, ce coin introduit entre le bon et le beau. Comme au rebours, j'ai lu, parfois, entre deux beaux yeux, des menaces d'une nature maligne et dangereuse. On peut supposer ici que ces beaux yeux, c'était plutôt des yeux féminins dans lesquels il y avait ce danger qui était perçu. Bref, la réalité est plus compliquée que cette correspondance entre le bon et le beau. Les apparences peuvent tromper. La liaison du physique et du moral n'est pas absolue. Ainsi, Montaigne en vient à une thèse modérée, celle du juste milieu. C'est une faible garantie que la mine. Garantie, mais faible. Toutefois, elle a quelques considérations. Et en ce point-là, on ne sait plus très bien que faire. Il faut en tenir compte, mais parfois, on se trompe. Et Montaigne, dans cette incertitude, préfère les bons aux beaux méchants. Je punirai plus aigrement la malice en une apparence débonnaire. Ceux qui nous trompent vraiment, ce sont ceux qui sont beaux, d'apparence débonnaire, mais malicieux, mauvais. Et finalement, d'insister sur la diversité des visages. Il y a tout. Et là, je n'ai fait que résumer parce que c'est un long développement. Il y a des beautés non fières seulement, mais aigres. Il y en a d'autres douces et encore au-delà fades. Donc, pronostiquer les aventures futures, vous voyez qu'il s'agit bien de cette physiognomonie à partir du visage, on interprète non seulement le caractère, mais l'avenir d'une personne, sa fortune, ce sont matières que je laisse indécises. Vous voyez qu'à partir de l'exception de Socrate, le doute est jeté sur toute cette théorie des caractères, et il s'agit de faire au mieux avec ce qu'on a. Socrate, qui était laid, a bien fait de redresser sa nature, si tant est que cela soit concevable, ce qui aux yeux de Montaigne est improbable. Mais Montaigne, dont le corps était harmonieux, a bien fait de suivre la sienne. Nous ne saurions faillir à suivre nature. Le souverain précepte, c'est de se conformer à elle. Je n'ai pas corrigé, comme Socrate, par force de raison, mes complexions naturelles, et n'ai aucunement troublé par art mon inclination. Je me laisse aller comme je suis venu, je ne combats rien, mes deux maîtresses pièces, le corps et l'esprit, vivent de leur grâce en pays et bon accord. En paix et bon accord. En paix et bon accord. Et donc harmonie chez lui. Il reste, vous le voyez, que Montaigne ne sera jamais convaincu que les hommes, même Socrate, puissent corriger leur nature. Et le paradoxe n'est donc nullement dénoué. Vous avez entendu cette formule, qui est au fond la formule définitive. C'est une faible garantie que la mine, toutefois, elle a quelques considérations. C'est bien que l'affaire est insoluble. Il n'y a pas de principe crédible et Socrate reste une exception à la philosophie de Platon. Ce qui est finalement très satisfaisant pour l'esprit, comme la preuve même qu'il n'y a pas de règle universelle. Et dans l'incertitude où nous nous trouvons, cela rejoint ce que nous avons vu à d'autres reprises, dans l'incertitude où nous nous trouvons, il faut parier. Il faut parier, il faut faire confiance. Et on se fie au visage, même si, parfois, ils peuvent tromper. Alors, le chapitre n'est pas fini, parce qu'une fois que ce nœud a été fait, cette articulation qui a justifié le titre, eh bien, Montaigne s'adonne dans un dernier cran, dans un dernier tour, à une nouvelle digression ou complication du chapitre sur les avantages de sa propre apparence. Il a évoqué l'harmonie de son corps, de son visage, et il réfléchit à cette apparence et à cette identité. J'ai un port favorable, favorable, c'est-à-dire qui inspire la faveur des autres, et en forme et en interprétation. Les autres lui font confiance. Et qui fait une contraire montre à celui de Socrate. Il m'est souvent advenu que sur le simple crédit de ma présence et de mon air, des personnes qui n'avaient aucune connaissance de moi s'y sont grandement fiées, soit pour leurs propres affaires, soit pour les miennes, et en est tiré, est-ce pays étranger, des faveurs singulières et rares. Mais ces deux expériences valent à l'aventure que je les récite particulièrement. Et voilà que ce chapitre, donc, dans sa fin, dans sa queue, nous relate deux épisodes de la vie de Montaigne. C'est probablement l'un des plus longs développements avec celui de l'accident de cheval, déjà commenté. Deux épisodes où la confiance, la franchise, ce visage ouvert qui est le sien, cette physionomie sympathique, lui ont sauvé la vie dans deux circonstances où il s'est trouvé en danger de mort. Et c'est donc la confirmation de cette idée de bonne mine, contrairement à celle de Socrate et à la confiance qu'elle peut inspirer. Suivent donc deux récits d'embuscade où il s'est tiré miraculeusement d'un mauvais pas. Et on peut remarquer, encore une fois, et c'est une remarque que j'ai faite déjà à plusieurs reprises, qui me frappe, dont je ne sais pas bien qu'en dire, mais nous avons observé qu'à chaque moment où Montaigne raconte des épisodes personnels, ils sont très peu corrigés par la suite, comme si ces récits de vie d'emblée avaient atteint leur forme définitive. Alors le premier épisode, c'est un gentilhomme voisin qui est parvenu à pénétrer par la ruse avec ses gens dans la cour du château de Montaigne, parce que celui-ci est peu défiant et que ce voisin disait qu'il était poursuivi et lui demandait protection. En vérité, ce voisin cherchait à s'emparer du château de Montaigne, avait demandé protection et s'était ainsi introduit en jouant sur la confiance de Montaigne. Et une fois que ce voisin est dans la cour de son château avec tous ses soldats, eh bien, il est confondu par la franchise de Montaigne. Il se vit maître de son entreprise. Il était chez moi, il m'avait vaincu. Et n'y restait sur ce point que l'exécution. Souvent, depuis, il a dit, car il ne craignait pas de faire ce compte, que mon visage et ma franchise lui avaient arraché la trahison des poings. Et Montaigne raconte comment ses soldats sont tous surpris, attendent l'ordre de s'emparer de Montaigne. Cet ordre ne vient pas. Et le voisin quitte le château de Montaigne sans l'exécuter. La seconde fois, c'est en 1588, c'est au moment où Montaigne fait le voyage de Bordeaux à Paris pour y apporter notamment le manuscrit de 1588, de l'édition de 1588 des Essais. Il tombe dans une embuscade entre Bordeaux et Paris. Il est arrêté, sa boîte lui est soustraite, la boîte avec le manuscrit des Essais de 1588. Il refuse de payer une rançon pour être libéré. Il a donc été dévalisé. Or, il est à l'article de la mort. Or, la liberté lui est soudain rendue, ainsi que ses hardes et sa boîte. Mystérieusement, sans explication, Montaigne parle d'un changement si nouveau, de ravissement sans aucune impulsion apparente, de repentir si miraculeux. Mais il est perplexe sur ce coup du sort. Et voici comment il explique. Le plus apparent, c'est-à-dire le chef de cette bande qu'il avait fait tomber en embuscade, qui se démasqua et me fit connaître son nom, preuve de franchise, me redit lors plusieurs fois que je devais cette délivrance à mon visage, liberté et fermeté de mes paroles, qui me rendait indigne d'une telle mésaventure, et me demanda assurance d'une pareille. Voilà la fin du chapitre, qui a donc un cheminement compliqué. Et ces deux anecdotes finales nous renvoient à celles que nous avons commentées autrefois dans le chapitre « Divers événements de même conseil » sur cette revue risquée de 1585. C'est la même leçon de confiance, de franchise, d'ouverture comme Paris. « Si mon visage ne répondait pour moi, dit Montaigne, correspondance, voici ce moi sur lequel nous nous interrogeons et nous interrogerons dans les prochaines leçons. Qu'est-ce que ce moi de Montaigne ? Si mon visage ne répondait pour moi, pour mon essence, pour mon être intérieur, si on ne lisait en mes yeux et en ma voix la simplicité de mon intention, je n'eusse pas duré sans querelle et sans offense si longtemps avec cette liberté indiscrète de dire à tort et à droit ce qui me vient en fantaisie et juger témérairement des choses. » Montaigne souligne donc que sa liberté d'allure, de parole, ne lui a pas porté préjudice parce qu'elle a toujours été reconnue comme une liberté franche et non une ruse par ses interlocuteurs. Ce chapitre est donc aporétique, peut-on dire, sur la relation du corps et de l'âme, sur la valeur de la physionomie ou de la physiognomonie. Montaigne ne résout pas l'énigme. Cette énigme, c'est encore celle de l'identité, dans la conformité, dans la liaison entre l'apparence physique et le caractère moral, entre le corps, le visage essentiellement, et l'âme. Et à la fin du chapitre, seuls les individus existent dans la variété de leurs visages. Il n'y a pas de règle. Et ces visages sont plus ou moins beaux, plus ou moins laids, sans principe pour s'y retrouver, ni pour se reconnaître soi-même, pour connaître sa fortune à partir de son visage. Dans l'incertitude, je l'ai dit, le plus sûr est de faire confiance. Prenons maintenant un peu de hauteur par rapport à ces accidents et ces incidents. que nous avons observée dans la vie et que Montaigne a relatée dans les essais. À chaque fois, Montaigne a cru mourir, a côtoyé la mort, l'a vue de près, a donc eu une expérience de la mort. Comme il le disait au début du chapitre de l'exercitation, peut-on essayer la mort ? Eh bien oui, dans ces circonstances, il l'a essayé. C'est donc une façon de résoudre le paradoxe que Montaigne a souvent soulevé et que nous avons souvent rencontré de cette vie sur laquelle on ne saurait écrire avant la mort. Je crois qu'on a encore vu un certain nombre d'occasions la semaine passée où Montaigne disait on ne peut parler d'une vie qu'une fois qu'elle est finie. On ne saurait donc l'écrire avant la mort. Mais ici, on le voit bien, le discours des essais est autorisé par ce voisinage de la mort, par le fait que Montaigne a côtoyé la mort à ses différentes reprises. Et ce qui est frappant, c'est que toutes ces expériences de ce qu'il appelait les avenues de la mort sont des expériences de la conformité de la vie et de la mort, comme du corps et de l'âme. À chaque occasion que Montaigne raconte, on en a vu maintenant au moins quatre, à chaque occasion que Montaigne raconte où il aurait pu mourir, eh bien, s'il était mort, il l'aurait fait comme il avait vécu. C'est donc bien cette expérience de la mort et de la fidélité de la mort à la vie qui justifie l'écriture de la vie. Malgré la reconnaissance de la diversité, les essais tendent bien vers le sentiment de cette unité subjective, de cette cohérence de l'individu, si bien que la mort, dans le cas de Montaigne, aurait été conforme à la vie, fidèle à la vie, comme son corps révèle son âme. On trouve beaucoup de remarques en ce sens dans les essais, et justement ce sont toujours des remarques tardives, soit de la fin du livre 3, soit dans des additions de l'exemplaire de Bordeaux, où Montaigne souligne cette conformité entre la vie et la mort. Par exemple, j'ai choisi le temps où ma vie, que j'ai à peindre, je l'ai toute devant moi. Ce qui en reste tient plus de la mort. Montaigne, c'est dans le chapitre 3.12 de la physionomie, c'est donc dans les pages que j'étais en train d'évoquer à la fin de ce chapitre de la physionomie, où la proximité de la mort, c'est bien cela sur quoi j'insistais, c'est la proximité de la mort qui rend légitime l'exercice de l'écriture de la vie en donnant sur elle un point de vue privilégié. Je peux la peindre puisqu'elle est toute là. Ou, dans une addition de l'exemplaire de Bordeaux, un petit chapitre du livre 1, que l'intention juge de nos actions, « Je me garderai, si je puis, que ma mort dise chose que ma vie n'est premièrement dit et appertement. » Appertement dans une addition de l'édition posthume de 1595. Montaigne exprime donc cette volonté de mourir comme il a vécu. Appertement, ce qui est dit ouvertement dans la vie, eh bien on le retrouvera silencieusement dans la mort. Il souhaite un dénouement, encore une fois, c'est bien cette notion de fidélité si importante dans les essais qui est là, cette mort que je disais fidèle à la vie. Je me contente d'une mort, c'est encore tardif dans le livre 3, dans le chapitre de la vanité, je me contente d'une mort recueillie en soi, quiète et solitaire, toute mienne, toute mienne, une mort toute mienne, convenable à ma vie retirée et privée, où nous retrouvons cette notion de convenance qui a fait tout l'intérêt de ce chapitre de la physionomie, chapitre sur la convenance du corps et de l'âme, de la vie et de la mort. Si bien que Montaigne, partout, en tout lieu, quand il voyage, quand il pénètre dans une nouvelle chambre, se demande s'il pourrait y mourir bien. En voyageant, au fond, c'est ce qu'il recommande de faire, en voyageant, se demander toujours si dans cette chambre, je pourrais mourir. En voyageant, je n'arrive guère en logis où il ne me passe par la fantaisie si j'y pourrais être, et malade, et mourant à mon aise. Je veux être logé en lieu qui me soit bien particulier, sans bruit, non sale ou fumeux. On a vu que Montaigne a une occasion condamné la saleté de Paris, la saleté et les odeurs de Paris. Non sale ou fumeux, ou étouffé. Je cherche à flatter la mort par ces frivoles circonstances, ou pour mieux dire, à me décharger de tout autre empêchement, afin que je n'ai qu'à m'attendre à elle, qui me pèsera volontiers assez sans autre recharge. Je veux qu'elle ait sa part à l'aisance et commodité de ma vie. Qu'elle ait sa part à l'aisance et commodité de la vie. C'est un grand lopin et d'importance, et espère, mais oui, qu'il ne démentira pas le passé. Qu'il ne démentira pas le passé. Vous voyez toujours cette insistance sur la conformité à trouver entre les deux. J'ai fini sur cette écriture de la mort, mais comme j'ai essayé d'aller un peu vite, il me reste un peu de temps pour aborder la section suivante que je développerai la prochaine fois. Après l'écriture de la mort et cette façon dont elle légitime, pour ainsi dire, l'écriture de la vie, je voudrais aborder l'écriture du corps, l'écriture de l'intime. Toujours avec cette... Je vais commencer à le faire, puisqu'il me reste quelques minutes pour aujourd'hui, mais c'est ce que je développerai la prochaine fois. Toujours avec cette question de l'identité à l'horizon de la réflexion, on pense bien entendu, quand on parle écriture du corps, écriture de l'intimité, écriture de la sexualité, dans les essais, on pense bien entendu d'abord au chapitre sur des vers de Virgile, chapitre 5 du livre 3. Donc si vous voulez le relire pour la prochaine fois, vous le pouvez. Aujourd'hui, je n'en parlerai pas encore. On pense à ce chapitre sur des vers de Virgile parce que c'est là que Montaigne va le plus loin dans l'écriture de l'intimité, pour ainsi dire. Et c'est dans ce chapitre qu'on trouve cette déclaration « Je me suis ordonné d'oser dire tout ce que j'ose faire. » Oser dire tout ce que j'ose faire, identité du dire et du faire. Comme nous venons de parler de cette identité du corps et de l'âme, ou de la vie et de la mort, toujours la recherche de cette cohérence, de cette consistance. Je me suis ordonné d'oser dire tout ce que j'ose faire et me déplaît des pensées même impubliables. Autrement dit, il faudrait exclure toutes les pensées qu'on ne peut pas rendre publiques. Mais avant d'aborder sur des vers de Virgile, je voudrais aller au plus simple, au plus immédiat d'abord, à la présence du corps et de ses fonctions. Toutes ces fonctions dans les essais sans aucune censure. Ça fait évidemment partie de la liberté de parole qui est revendiquée par Montaigne. Et je dirais que cela fait aussi penser à à l'histoire de la vie privée, telle que un historien comme Norbert Elias a pu l'écrire, histoire de l'intime, insistant sur le fait que certains actes se privatisent à la Renaissance. On le sait, lorsqu'on a lu Rabelais et lorsqu'on lit Montaigne, certains actes se sont déjà privatisés de Rabelais à Montaigne. Se moucher, déféquer, faire l'amour appellent de plus en plus de discrétion. Et Montaigne est d'une certaine façon sur le seuil à propos de toute cette écriture de la vie. Montaigne flotte, comme sur beaucoup d'autres points, à propos de celui-là. Il hésite peu à parler de toutes ses fonctions du corps. Mais, comme on le verra la prochaine fois, dans le chapitre sur des vers de Virgile, il n'y en a pas moins un renversement total, puisqu'il découvre, en écrivant le chapitre, qu'il vaut mieux ne pas tout dire. Ce chapitre commence en disant « Je me suis ordonné d'oser dire tout ce que j'ose faire », et puis il constate, au fur et à mesure de l'écriture, le pouvoir de l'indirection. Ainsi, Montaigne ne se gêne nullement pour parler, par exemple, de ces choses simples de la vie, comme de se moucher, dans le chapitre de la coutume et de ne changer aisément une loi reçue. C'est une addition, le début du passage. Il en est des peuples. Il est en train d'évoquer les diverses coutumes des peuples. Il est des peuples, où quand le roi crache, la plus favorite des dames de la cour tend la main. Ça vient de Lopez de Gomara, l'histoire générale des Indes. C'est une anecdote relative au roi du Pérou et à ses favorites. Ça nous renvoie, si l'on veut, au chapitre des cannibales, qui actualise beaucoup de ces questions de l'intimité du corps. En autre nation, les plus apparents qui sont autour de lui, les premiers, les plus remarquables de sa cour, se baissent à terre pour amasser en du linge son ordure. Ça appartient à cette... c'est une addition, donc... B, 1588, un chapitre du livre 1 qui nous montre que, tardivement, Montaigne n'hésite pas à recourir à ces coutumes différentes des peuples pour produire ces analyses. Et puis, il y a encore une addition, à propos de l'addition B et une addition C, de l'exemplaire de Bordeaux, qui rapporte une anecdote personnelle. Dérobons ici la place d'un conte. Ajoutons une petite histoire. Un gentilhomme français se mouchait toujours de sa main, chose très ennemie de notre usage. Chose très ennemie de notre usage, qui nous renseigne sur l'usage, en tout cas, des honnêtes gens de la fin du XVIe siècle. Défendant là-dessus son fait, et était fameux en bonne rencontre, en bons mots, il me demanda quel privilège avait ce sale excrément que nous allassions lui apprêtant un beau linge délicat à le recevoir, et puis, qui plus est, à l'empaqueter et serrer soigneusement sur nous, que cela devait faire plus de horreur et de mal au cœur que de le voir verser ou que ce fût comme nous faisons tous autres excréments. Je trouvais qu'il ne parlait pas du tout sans raison et m'avait la coutume ôter l'apercevance de cette étrangeté, laquelle pourtant nous trouvons si hideuse quand elle est récitée d'un autre pays. C'est donc la leçon du... C'est la logique des cannibales. C'est la leçon du relativisme culturel. Nous sommes les barbares et ce ne sont, eux ne sont pas les barbares, ou bien, à la limite, nous sommes tous des barbares. Leçon finale du relativisme culturel. J'arrêterai ici, mais c'est sur ce chapitre que je poursuivrai la prochaine fois, donc sur cette écriture de la vie comme écriture de l'intime.